Bom dia, bem-vindo ao Parlamento Português. Vamos dar início à nossa reunião. Eu penso que já foram feitas algumas apresentações, mas vou repeti-las. Estou aqui na qualidade de Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, que acompanha também, enfim, os assuntos europeus, incluindo também as matérias sobre que penso que incide esta nossa reunião. Tenho comigo o Sr. Vice-Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, deputado Serpa Oliva. Depois, da direita para a esquerda, a Sra. Deputada Mónica Ferro, da Comissão de Negócios Estrangeiros, do Parlamento Português e das Comunidades Portuguesas. O Sr. Deputado Carlos Costa Neves, também da Comissão de Assuntos, Europeus. E o Sr. Deputado Nuno Matias, igualmente, da Comissão de Assuntos Europeus. Queria dar-lhes boas-vindas ao Parlamento Português. E dizer que este tema, enfim, as atividades do Serviço Europeu de Ação Externa, é um tema que nos interessa, que nós temos acompanhado, e estamos disponíveis para ouvir e para um diálogo, uma colaboração frutuosa. Pelo que sei mais, eu passar-lhe a palavra.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je m'excuse de ne pas parler en portugais, j'aimerais beaucoup, mais je pense que vous seriez scandalisé par mon portugais si j'essayais de dire quelques mots. Je pense que ce qu'il y a peut-être de plus utile pour vous tous, Madame et Messieurs, c'est peut-être de vous donner quelques indications sur actuellement l'état d'organisation et de fonctionnement de ce service européen d'action extérieure, et puis bien sûr de répondre à toutes les questions que vous souhaiterez nous poser, à la fois sur le service, mais peut-être aussi sur différents sujets d'actualité de politique étrangère, si vous souhaitez que nous fassions le point sur ces différents sujets. Le service européen d'action extérieure, à l'heure actuelle, c'est 1 500 fonctionnaires à Bruxelles et 2 000 fonctionnaires à peu près dans notre réseau de délégations. Nous appelons ça des délégations pour ne pas faire de confusion avec les ambassades des États membres. Nous avons à peu près 140 délégations à travers le monde, à la fois dans les pays avec lesquels nous avons des relations bilatérales et à peu près dans un peu moins d'une dizaine d'organisations internationales. L'objectif, comme vous le savez, que nous nous sommes fixés, qui était d'avoir un recrutement à la fois de fonctionnaires venus de la Commission, de fonctionnaires venus du secrétariat du Conseil, et puis de diplomates venus des États membres. Cet objectif est en train de se mettre en place puisque il nous est demandé d'avoir un tiers de diplomates des États membres à l'échéance du milieu de l'année 2013 et qu'au début de cette année, nous en avons déjà plus de 20%. Nous sommes déjà au-dessus de 30% pour les chefs de délégation et les diplomates dans les délégations. Nous sommes autour de 14 ou 15% pour ceux qui sont en poste à Bruxelles. Donc vous voyez la moyenne, ça fait à peu près 20-21%. Nous avons quelques très très bons diplomates comme chefs de délégation. Nous en avons notamment 6 qui viennent du Portugal dans quelques-uns des grands postes que nous avons, notamment Washington, mais également le Brésil, le Cameroun, le Gabon, l'Ukraine. Et donc, nous sommes tout à fait prêts à en accueillir encore davantage, bien sûr, parce qu'il est très important pour nous, dans l'effort que nous faisons, de créer une nouvelle culture administrative, une culture diplomatique. Il est très important pour nous d'avoir l'expertise et l'expérience des diplomaties des États membres, si nous voulons avoir cette approche intégrée que nous souhaitons. Nous avons les fonctionnaires de la Commission qui arrivent avec leur très bonne expérience en matière de négociations commerciales, d'aide au développement, etc. Nous avons les experts du Conseil, du secrétariat du Conseil, qui nous aident dans nos relations avec les États membres à Bruxelles. Mais nous avons besoin de cette culture diplomatique, de cette expérience diplomatique qui est tout à fait importante si nous voulons avoir un service qui demain occupera toute la palette des instruments. Je vous rappelle également que nous accueillons maintenant au service d'action extérieure également les organismes qui s'occupent de politiques de défense et de sécurité et qui étaient jusqu'à maintenant au sein du Conseil. C'est également maintenant dans le service d'action extérieure que nous regroupons ces différents fonctionnaires qui, eux aussi, ont été en quelque sorte prêtés par les États membres. Donc nous avons un dispositif assez complet. Nous essayons maintenant de le faire tourner depuis un an. Nous savons qu'il faut faire preuve de patience parce que ça prendra du temps pour que tout le monde se mette ensemble et qu'on arrive à créer un nouvel esprit de corps. Il faut savoir aussi que jusqu'à maintenant, et contrairement à ce qui aurait dû être la bonne pratique, vous savez que quand deux entreprises décident de faire une fusion, en général on les regroupe tous dans un seul et même bâtiment pour créer ce nouvel esprit de corps. Là, ça n'a pas été le cas. Le déménagement est en train de se faire, mais pendant un an, chaque nouveau fonctionnaire du service d'action extérieure a continué à travailler dans ses locaux antérieurs. Et donc, créer ce nouvel état d'esprit va prendre un peu plus de temps, mais le simple fait que nous soyons maintenant tous ensemble dans le même bâtiment, je crois, va nous aider. Deux mots peut-être encore, et puis je m'arrêterai là, Monsieur le Président. Quelles ont été nos principales activités en matière de politique étrangère? À dire vrai, on n'a pas eu beaucoup de choix, parce que le jour où on a mis en place le service d'action extérieure, on était en plein milieu de la crise de Côte d'Ivoire, on était en plein milieu de la crise de la Biélorussie après l'élection présidentielle, et dans les jours qui ont suivi notre installation, les premiers événements du printemps arabe ont commencé à se produire en Tunisie, puis en Libye, puis en Égypte, etc. Et donc nous avons passé une année très intéressante mais très lourde à gérer en permanence la crise. Et comme vous le savez, nous continuons à le faire aujourd'hui avec la Syrie, avec la question iranienne et le programme nucléaire iranien, avec l'Égypte et encore avec beaucoup d'autres pays. Donc nos priorités, elles s'imposent à peu près d'elles-mêmes, outre bien évidemment poursuivre l'effort de mise en place du service d'action extérieure. Il y a tout ce qui tourne autour de la politique avec nos voisins au sud, printemps arabe, et à l'est avec l'Ukraine, la Biélorussie, la Géorgie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, etc. Et je dirais troisième grande priorité, les partenariats que nous essayons de développer avec un certain nombre de pays que nous considérons comme stratégiques, que ce soit les pays émergents, Brésil, Inde, Afrique du Sud, que ce soit avec la Russie ou la Chine, que ce soit bien évidemment avec les États-Unis ou encore le Japon, la Corée et je dirais en Amérique latine, le Mexique ou d'autres encore. Donc voilà, Monsieur le Président, à peu près l'état des lieux à l'heure actuelle.
Muito obrigado, Sr. Secretário-Geral. Eu também vou passar a palavra aos meus colegas. Penso que o mais interessante é que haja um diálogo e questões sobre estes temas. Queria agradecer-lhe esta exposição, estas informações iniciais. E antes de prosseguir, queria apenas completar as apresentações de outros colegas nossos. Chegou, entretanto, o Sr. Deputado Lino Ramos, que é Vice-Presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros. Temos também a Sra. Deputada Esther Vargas, da Comissão de Assuntos Europeus, e o Sr. Deputado Paulo Pisco, da Comissão de Negócios Estrangeiros. Então, eu, sem mais, perguntaria se algum dos meus colegas pretende desde já intervir. Sra. Deputada Mónica Ferro, por favor. Deputada Mónica Ferro.
Bom dia, Sr. Secretário-Geral. Também me vou abster de falar em francês, porque ficaria chocado com o nível do meu francês, mas gostei muito da sua apresentação, é-nos muito útil sempre estes enquadramentos sobre o estado da arte do serviço, quer em termos de funcionários, quer em termos de cumprimento de objetivos e das grandes prioridades da ação, e eu queria lhe colocar três pequenas questões, que não sendo bem questões, são pedidos de reflexão sobre esta matéria. Uma delas é qual é que é, na sua perspectiva, o envolvimento ou a sua visão para o envolvimento do serviço na área consular, nomeadamente na área das emergências consulares, nas operações de evacuação, porque tenho ouvido alguns comentários a favor de haver um maior envolvimento do serviço, nomeadamente no papel de coordenação. A outra reflexão que queria partilhar consigo diz respeito à importância que Portugal atribui, que muitos países atribuem, a uma representação equitativa dentro do serviço. Para nós essa questão é uma questão fundamental, parece-nos que está a correr bem, mas é sempre preciso tê-la presente para que continue a correr bem e possa correr da melhor forma. Uma última reflexão para não amassar e não esgotar o tempo dos meus colegas, diz respeito à questão da visibilidade do serviço. Infelizmente a visibilidade do serviço ainda é pequena, por ser recente, por estar numa fase de instalação, e portanto eu gostava de ouvir sobre quais é que são as vossas estratégias para reforçar esta questão da visibilidade do serviço. É tudo. Muito obrigada.
Eu penso que podemos para já fazer uma resposta individualizada imediatamente e seguidamente passaríamos depois se houver outras questões. Sr. Secretário-Geral, por favor.
Merci bien, Monsieur le Président. En prenant une par une vos questions, la question des affaires consulaires, comme vous le savez, c'est au départ une question un peu controversée, puisque le traité de Lisbonne a une formulation un peu ambiguë pour essayer de tenir compte des uns et des autres, des positions des uns et des autres, et que notamment certains États membres sont très soucieux d'éviter que... les questions consulaires proprement dites, ce qui concerne en particulier tout ce qui tourne autour du traitement des situations des citoyens européens dans les pays tiers, puisse devenir une compétence gérée directement par Bruxelles. Il faut donc qu'on trouve le moyen quand même d'aider, parce que le traité de Lisbonne dit que dans les limites de ses compétences, le service d'action extérieure pourra éventuellement aider. Et l'un des angles d'attaque sur ces questions-là est précisément le sujet que vous évoquiez, celui des évacuations ou, je dirais, de la gestion de crise. Comment est-ce que nos délégations peuvent éventuellement se rendre utiles lorsque nous sommes dans une situation de crise où il faut envisager d'une part l'évacuation peut-être des personnels diplomatiques et consulaires, tout au parti de ce personnel, et puis l'évacuation éventuellement de nos ressortissants des pays de l'Union européenne. Et donc nous sommes actuellement en train de travailler là-dessus. Pour vous donner un exemple très concret, autour des événements qui se passent actuellement en Syrie, le service d'action extérieure est en contact avec les États membres pour voir si à la fois en Syrie, mais également en Jordanie, au Liban, c'est-à-dire les pays voisins de la Syrie, il ne faut pas mettre en place ce que les Anglais appelleraient du contingency planning, c'est-à-dire commencer à planifier un peu une situation de crise. Et les États membres sont très désireux d'avoir ce travail, et sur ce plan-là, il y a un accord de tous. Donc c'est un terrain sur lequel on peut travailler. Nous n'avons pas forcément énormément de moyens, mais nous essayons de jouer un rôle un peu de coordinateur. Pour les affaires consulaires plus proprement dites, ça sera sans doute plus long. Il faut bien voir aussi que les délégations de l'Union européenne n'ont pas l'expertise, puisque nous n'avions pas à traiter d'affaires consulaires à proprement parler. Nous n'avons pas pour le moment de fonctionnaires qui savent travailler sur ces questions-là. Donc ça nous poserait un problème si on nous demandait du jour au lendemain de nous occuper de cela. Et puis nous n'avons pas non plus les ressources financières. Donc il faut qu'on tienne compte de ça, et si jamais les États membres un jour nous le demandent de nous occuper de ces affaires, il nous faudra un peu de temps. Répartition équitable au sein du service d'action extérieure, vous avez raison, il faut faire très attention, à la fois pour une répartition géographique, mais je dirais aussi pour une répartition hommes et femmes, où Cathy Ashton, qui s'intéresse beaucoup à ce sujet-là, nous a demandé de faire un effort particulier. Donc on a réussi à augmenter le nombre de femmes qui travaillent dans le service et de leur donner des postes de responsabilité. Mais l'une des difficultés que l'on rencontre, c'est que pour recruter des diplomates des États membres, il faut que cet équilibre existe aussi dans les États membres. Et ce n'est pas le cas. On voit très souvent que dans les services diplomatiques, les postes de responsabilité confiés aux femmes sont très limités. Donc nous n'avons pas autant de candidates féminines que nous le souhaiterions, mais nous essayons d'aller dans ce sens. Pour la répartition entre les nationalités, on essaye de tenir compte possible de cet objectif, tout en tenant compte aussi des mérites des uns et des autres. Et l'une des difficultés qu'on rencontre, on le voit bien avec certains États membres, notamment parmi les candidats qui sont entrés récemment dans le sein de l'Union européenne, lorsque l'on cherche des gens pour l'Afrique ou l'Asie, ces pays-là n'ont pas toujours l'expertise au départ et les diplomates qui connaissent ces régions du monde. Et donc ça prendra peut-être un peu plus de temps que prévu, mais notre objectif reste bien celui d'une répartition équitable et équilibrée entre toutes les nationalités. Et puis dernière question, celle de la visibilité, vous avez raison, il faut faire davantage. Nous sommes en train de développer une politique de communication pour faire connaître ce que nous faisons. Mais comme je le disais tout à l'heure, il a fallu un peu tout faire en même temps à cause des crises. Et donc on a fait un peu une répartition de priorités, mais la communication est certainement une de nos priorités pour l'année à venir.
Sr. Deputado Paulo Pisco, da Comissão de Negócios Estrangeiros.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria também de começar por cumprimentar o Sr. Secretário-Geral e gostaria de colocar, sobretudo, uma questão que se prende com a complementaridade e a cooperação em termos institucionais. O Serviço Europeu de Ação Externa ainda está na sua fase, como aqui foi referido, de implementação. É muito importante para a visibilidade externa da União Europeia, a forma como está presente no mundo, mas eu julgo que desde o início tem havido um problema que tem a ver com a complementaridade entre a Comissão Europeia, portanto, e todo o serviço, e a forma como se coordena com os Estados-membros. Quer dizer, existe uma dimensão de complementaridade, não substitui a ação dos Estados-membros, portanto, naquilo que é também a sua ação externa e a sua soberania. Portanto, aquilo que eu gostaria de colocar ao Sr. Secretário-Geral como questão é o seguinte: de que forma é que é feita esta complementaridade, quer com os Estados... Peço desculpa, estava a falar demasiado rápido. De que forma é feita esta complementaridade com os Estados-membros? Isso por um lado. E por outro lado, como é que é feita a ponte também a nível do Parlamento Europeu? Qual é o papel que tem o Parlamento Europeu no acompanhamento da ação externa, portanto, a nível do serviço? A outra questão que eu gostaria de colocar, e porque peço desculpa que não estive desde o início, tem a ver com a colocação de todos os diplomatas. Não sei se já está concluído esse processo ou não, e pedi ao Sr. Secretário-Geral se nos podia dizer em que fase é que se encontra, não sei, confesso, não sei se disse ou não, mas se pudesse dizer, me agradecia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário-Geral, se quiser responder.
Complémentarité, vous avez raison, c'est un sujet essentiel pour notre service qui met en œuvre une politique commune, une politique étrangère commune et pas une politique étrangère unique. Donc vous avez 27 diplomaties nationales et puis au niveau européen, une diplomatie qui essaye d'être complémentaire. C'est quelque chose qu'on découvre tous les jours en avançant et en marchant. Mais c'est quelque chose qui est très évident quand on est à Bruxelles, parce que en réalité, c'est les États membres les premiers qui nous demandent de temps en temps de faire un travail que eux-mêmes ne souhaitent pas faire ou préfèrent confier à Bruxelles. Je vous donne un ou deux exemples. Tout ce qui concerne ce que l'on appelle les mesures restrictives ou plus simplement les sanctions. Depuis le début des événements en Afrique du Nord ou toutes les crises qu'on traverse, il y a une espèce de demande constante, permanente des États membres qu'au niveau européen, nous prenions des sanctions dans le domaine financier, récemment dans le domaine pétrolier avec la Syrie ou l'Iran, dans le domaine des visas vis-à-vis d'un certain nombre de personnalités ou d'individus que l'on souhaite sanctionner. Et ces sanctions, nous avons maintenant acquis une expérience qui nous amène à prendre des sanctions, ce que l'on appelle des sanctions autonomes au niveau européen, sans même qu'il y ait eu de décision des Nations Unies. Et ça, c'est une évolution qui est tout à fait étonnante. Par malheur, je m'occupe de questions européennes depuis un certain nombre d'années. Il y a 10 ans, quand on essayait de prendre des sanctions au niveau européen sans qu'il y ait eu au préalable une décision du Conseil de sécurité des Nations Unies, on n'y arrivait pas. La moitié des États membres s'y opposaient très très durement. Aujourd'hui, ça se passe très bien. On arrive à de très bons résultats très rapidement. Et ça, c'est typiquement le genre de responsabilité que les États membres ont souhaité confier à l'Union européenne en leur nom. On pourrait trouver d'autres exemples, des démarches diplomatiques où les États membres préfèrent que ce soit l'Union européenne qui parle en leur nom à tous. Dans les négociations commerciales, par exemple, avec la Chine sur la protection des droits intellectuels, les États membres préfèrent que ce soit fait par l'Union européenne plutôt que de le faire individuellement. Donc on arrive à trouver un équilibre dans le respect de la souveraineté de tous les États membres, bien évidemment, mais on arrive à trouver ça plus facilement que je ne le pensais moi-même quand je suis arrivé dans mes nouvelles fonctions. Ça se passe relativement bien, y compris dans quelque chose d'assez spectaculaire. Vous parliez, madame, de visibilité, les déclarations. On arrive très bien à voir qu'on peut à la fois avoir des déclarations faites par le Premier ministre portugais sur la Syrie, le Premier ministre britannique ou la chancelière allemande, et avoir en même temps à Bruxelles des déclarations qui sont faites aussi par la haute représentante. L'important, c'est qu'on se coordonne bien et que le message soit à peu près le même. Et ça, on a une bonne pratique maintenant pour faire ça ensemble et de manière complémentaire. Sur votre deuxième question, j'y avais répondu en partie, mais je peux le développer encore un peu plus. Aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, nous avons à peu près 30% de postes au sein des délégations qui sont occupés déjà par des diplomates des États membres, essentiellement les postes de chef de délégation ou bien de chef de la section politique, parce que c'est là qu'on a le plus besoin de diplomates pour faire l'analyse politique. Dans l'administration centrale à Bruxelles, c'est moins, il y a moins de monde, il y a à peu près 14 ou 15% de postes assurés actuellement par des diplomates. Pour vous donner un exemple, cette année, enfin l'année dernière, pour l'année donc 2011, on a à peu près mis en rotation, soumis à candidature, à peu près 25 ou 26 postes en délégation de chef de délégation. Entre 16, je crois que c'était 16 ou 18, ont été confiés à des diplomates, les autres essentiellement à des fonctionnaires de la Commission ou du secrétariat du Conseil. Donc, pour arriver à cet objectif d'un tiers de diplomates dans l'ensemble du service, il y a une montée en puissance qui a incontestablement favorisé les diplomates des États membres par rapport aux fonctionnaires de la Commission ou du Conseil. C'est d'ailleurs un problème qu'il va falloir qu'on traite au cours des prochaines années, parce que bien sûr, pour les perspectives de carrière des fonctionnaires de la Commission qui sont venus au service d'action extérieure, c'est plus difficile. Ils ont un peu l'impression qu'actuellement tous les postes sont pris par les diplomates, et donc il faudra qu'à mesure qu'on avance, qu'on rééquilibre un peu les choses.
Sr. Secretário-Geral, queria completar as apresentações do senhor, com dois senhores deputados que chegaram entregando, o senhor deputado Duarte Marques, da Comissão de Assuntos Europeus, e o senhor deputado António Rodrigues, também da Comissão de Assuntos Europeus. Passamos ao senhor deputado Sérgio Oliva, vice-presidente da Comissão de Assuntos Europeus. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Seja bem-vindo, Sr. Secretário-Geral. É uma honra para nós tê-lo connosco. E já aflorou a questão da Líbia. E a Líbia é uma questão que nos preocupa fortemente. Teria havido um relatório de parceria com a Líbia no ano passado, privilegiando setores como a saúde, a educação, o auxílio jurídico e outras questões. Como é que, com o problema grave de segurança interna que existe hoje na Líbia, com a inclusão das tribos, das milícias, das facções regionais, etc., como é que Vossa Excelência vê o roteiro europeu? Acha que deverá passar por uma missão da ONU para que realmente se consiga evitar um retrocesso na Líbia? Esta era a primeira questão que lhe colocava. A segunda era realmente relativa aos primeiros balanços dos proveitos da estratégia diplomática global da União Europeia. Desde que essa abertura de missões diplomáticas equiparadas às embaixadas, que regiões ou países acha que têm maior potencial de relação connosco, União Europeia, e quais aqueles que acha que estão encravados, digamos, se o termo pode existir, e que previsões de tensões existem nos próximos, enfim, 5, 10 anos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sou Secretário-Geral.
Sr. Secretário-Geral, se quiser responder.
Sur la Libye, c'est en effet une situation compliquée à l'heure actuelle, mais qui n'est pas tout à fait anormale. Quand on sort d'une crise comme celle qu'a connue la Libye, il est normal qu'on passe par une période un peu d'adaptation et de transition. L'un des problèmes les plus importants devant lequel on est confronté à l'heure actuelle, comme vous l'avez très bien indiqué, monsieur le député, c'est la question des milices qui sont encore présentes avec beaucoup d'armes. Et les autorités intérimaires libyennes sont très soucieuses d'arriver progressivement à intégrer ces milices, soit dans l'armée, soit dans la police, soit éventuellement dans le corps d'inspection qu'ils essaieront d'établir aux frontières. Et soit en aidant un certain nombre de membres de ces milices à trouver de l'emploi. Donc ils essayent de mettre en place des programmes de formation et ils essayent de mettre en place des programmes de structuration de leur armée et de leur police. C'est l'un des éléments les plus importants pour eux et l'un des objectifs sur lesquels ils ont appelé l'attention de la communauté internationale et ont demandé à la fois aux Nations Unies et à l'Union européenne de les aider. Nous sommes en train de le faire sur plusieurs plans. Nous aurons d'ailleurs, pas plus tard que la semaine prochaine, un atelier, un workshop, comme on dit en anglo-saxon, un workshop sur les questions de sécurité avec les autorités libyennes et des experts de l'Union européenne pour réfléchir à la manière de les aider sur le démantèlement et la démilitarisation, en quelque sorte, des milices, et d'autre part, sur tout ce qui concerne la réforme du secteur de sécurité. Et en particulier, ils nous ont demandé de les aider à faire une évaluation de leurs besoins pour tout ce qui concerne la sécurité à la frontière, parce que vous voyez, on voit tous très bien qu'actuellement, la Libye, de par sa position géographique, est un endroit extraordinairement névralgique pour toute la sécurité dans le Sahel, Tchad, Niger, Mali, Mauritanie, Algérie, Tunisie, Égypte de l'autre côté, et qu'avec les trafics d'armes qui ont suivi les événements de Libye, le retour d'un certain nombre d'éléments de la population du Sahel, les tribus Touareg que Kadhafi avait fait venir en Libye pour l'aider et qui sont en train de retourner, on voit bien que ça crée une instabilité dans toute la région qui nécessite qu'on s'occupe non seulement de la Libye et de ses frontières, mais également du Mali et du Niger. Vous avez vu les récents événements au nord Mali qui sont très préoccupants, où il y a un début de rébellion des tribus Touareg que les autorités maliennes à Bamako observent avec beaucoup, beaucoup d'inquiétude. Donc nous avons un travail là à faire que nous sommes en train de faire. Nous venons d'envoyer des experts sur le terrain et nous allons les aider. Il y a d'autres domaines, bien sûr. Vous avez parlé de l'éducation, de la santé, le soutien à la société civile, à la mise en place de partis politiques, d'organisations non gouvernementales, la communication aussi. Nous ont demandé de les aider à monter les médias et la presse. Tout ça, nous le faisons très étroitement avec les Nations Unies qui ont envoyé une mission là-bas et bien évidemment en complet partenariat avec les États membres qui font aussi des choses de leur côté à titre bilatéral. Donc ça va demander du temps. Nous avons aussi un problème parce que nous parlons à des autorités qui sont intérimaires et qui ont du mal à prendre des décisions en disant qu'il doit y avoir des élections au mois de juin et elles estiment qu'avant ces élections du mois de juin, il leur est difficile de prendre des décisions qui engagent l'avenir de la Libye. nous leur disons très bien, c'est vous qui êtes souverain et c'est vous qui décidez, mais peut-être peut-on, en tout cas en attendant, faire une bonne évaluation de vos besoins pour que les décisions puissent être prises ensuite rapidement. Et donc, ça complique un peu les choses, mais disons qu'on avance quand même pas trop mal sur ce terrain-là et qu'on va continuer à le faire. Vous me demandiez par ailleurs des exemples de bonnes pratiques entre les délégations de l'Union européenne et les États membres. D'abord, un commentaire général. Ça se passe plutôt bien au niveau des ambassades bilatérales. Et je dois dire, beaucoup mieux qu'on ne l'imaginait au départ. Avant de prendre mes fonctions, j'étais par exemple à Washington et le transfert à la nouvelle délégation de l'Union européenne, c'est vraiment très bien fait. Alors ça tient sûrement au fait que le chef de la délégation est un Portugais et qui a beaucoup de qualités, de talents et qui est un ami personnel. Mais vraiment, on a 27 ambassades des pays membres à Washington. Tout le monde a accepté que la coordination soit faite par la délégation de l'Union européenne parce que c'est son rôle naturel et qu'on a tous besoin d'un point focal comme ça, d'un centre où on peut tous se retrouver. La bonne pratique, c'est faire des rapports en commun, faire des démarches diplomatiques en commun, essayer ensemble de voir si on peut réduire les dépenses. Exemple que l'on donne souvent, mais que je trouve très intéressant, le délégué de l'Union européenne à Tokyo a proposé que la revue de presse qu'il fait tous les jours pour sa délégation soit distribuée à l'ensemble des ambassades pour leur éviter d'avoir à faire le même travail. On essaye de mettre en commun les services de traduction d'interprètes dans des pays où les langues sont difficiles et on peut gagner comme ça des économies. Et on va continuer à travailler au cours des prochains mois pour essayer de voir si on peut trouver d'autres formules encore, y compris si on a des délégations de l'Union européenne qui sont suffisamment grandes et qui ont suffisamment de locaux pour voir si éventuellement elles pourraient devenir des sortes de maisons de l'Europe qui accueillerait certains diplomates des pays membres qui souhaiteraient être plus légers, ne plus avoir des bâtiments à eux parce que ça coûte très cher et pouvoir bénéficier de deux ou trois salles pour travailler et pour être là tous ensemble sous le même toit. Donc voilà, on est lancé dans toute une série de best practices qu'on va essayer de développer au cours des années qui viennent.
Obrigado. Passa-se deputado Costa Neves, da Comissão de Assuntos Europeus.
Obrigado, Sr. Presidente. Também eu queria cumprimentar o Sr. Secretário-Geral e tinha aqui duas ou três questões. A ação de serviço da ação externa é uma ação marcada por um constante equilíbrio. Aliás, o Sr. Secretário-Geral falou nessa expressão equilíbrio. Equilíbrio entre a Comissão e o Conselho, e eu gostava de lhe perguntar se esse equilíbrio é fácil, ou seja, se é fácil responder perante duas entidades, não vou dizer dois patrões, mas vou dizer duas entidades. Segundo, em relação ao equilíbrio, eu gostava de perguntar se já tem alguma experiência ou algum caso de a delegação do Serviço de Ação Externa assumir uma representação mais direta quando um Estado-membro não tem representação num determinado país. Se há qualquer mecanismo em que possa haver um subestabelecimento ou se normalmente essa relação se faz com um outro Estado-membro, como era tradicional. E a terceira questão é em relação à representação equitativa, quer das várias instituições, quer dos Estados-membros, no pessoal, no staff do Serviço da Ação Externa. E a pergunta é, para que haja equilíbrio é preciso haver indicadores, um terço, mas por outro lado também indicadores em relação à representação que já está assegurada por parte de cada Estado-membro. Aí funcionam as dinâmicas naturais ou há uma certa ação no sentido de garantir esse equilíbrio e se ele de alguma forma está garantido neste momento ou não. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Secretário-Geral.
Sr. Secretário-Geral, por favor.
Vous parlez d'équilibre, monsieur le député, vous avez tout à fait raison. C'est vraiment ça qu'il faut faire. D'abord, vous parliez de nos relations avec le Conseil et la Commission. Vous savez mieux que quiconque que la summa divisio au sein des affaires européennes, c'est entre ces deux institutions qui ont chacun leur rôle au regard du traité et qui ont un rôle complémentaire, mais aussi souvent un rôle un peu en opposition. Et au fond, ce qu'on demande au service d'action extérieure, c'est d'être quelque part au milieu entre les deux, de prendre un peu de chacune de ces deux institutions et d'essayer de faire une synthèse. C'est quelque chose de tout à fait nouveau, qui n'existe pratiquement, qui est sans précédent au sein de l'Union européenne. Si vous regardez tous les traités depuis le traité de Rome, on n'avait jamais encore réfléchi à quelque chose qui pourrait être entre ces deux institutions. Je ne connais le seul autre exemple, je crois que je connais, d'un service qui était dépendant des deux, c'est le service des interprètes et des traducteurs. Mais voilà, donc c'est quelque chose de très nouveau et quelque chose qu'il faut établir avec le temps et la patience. Les relations sont bonnes, mais il est évident qu'il nous faut un peu de temps pour trouver exactement notre équilibre avec chacune de ces institutions. Prenez le Conseil, nous avons remplacé le secrétariat du Conseil pour tout ce qui concerne la présidence du Conseil des affaires étrangères, du Conseil des ministres de la Défense et du Conseil des ministres du Développement. Nous avons maintenant la présidence d'un certain nombre de groupes de travail. Nous avons la présidence du COPS. Et donc, sur tous ces nouveaux postes que nous occupons maintenant, nous remplaçons en partie le secrétariat général du Conseil. En même temps, nous devons continuer à travailler avec lui et lui trouver et lui donner une nouvelle place et définir ensemble notre complémentarité. C'est la même chose avec la Commission, puisqu'on nous demande, on a demandé au service d'action extérieure et à Madame Ashton d'assurer la cohérence de l'action extérieure de l'Union, dont une partie est assurée par les services de la Commission et une autre partie par nous. Et donc nous devons travailler très étroitement avec la Commission. Ça veut dire par exemple que sur la politique de l'énergie, la politique de l'aide au développement, sur la politique des transports, quand il y a une dimension extérieure à cette politique, nous devons pouvoir travailler avec les services de la Commission. Et ce n'est pas toujours facile au départ, parce qu'il faut trouver le temps d'établir notre rapport et nos relations. Mais le mot d'équilibre me paraît être exactement ce que nous essayons de définir. Et je dirais que c'est la même chose aussi avec les États membres. Vous interrogiez sur les délégations à l'Union européenne. Est-ce qu'elles peuvent remplacer des États membres lorsqu'ils ne sont pas là? Oui, c'est possible, mais nous ne le faisons que si on nous le demande. Nous ne cherchons pas à prendre d'initiative sur ce terrain-là. Ce qui me frappe beaucoup, c'est que les États membres viennent nous voir beaucoup à Bruxelles pour nous dire qu'ils envisagent éventuellement, dans le cadre des efforts de rigueur budgétaire, qu'ils envisagent éventuellement de réduire leurs ambassades, parfois de fermer certaines de leurs ambassades, et qu'ils aimeraient bien à ce moment-là organiser leurs intérêts dans le pays donné, leur représentation, la promotion de leurs idées et de leur influence à travers la délégation de l'Union européenne. Et donc nous essayons à ce moment-là de le faire. Notre problème, vous évoquiez ce point, monsieur le député, notre problème, c'est qu'on peut les aider sur le plan politique. Il nous est plus difficile de les aider sur le plan juridique à proprement parler, parce que nous ne sommes pas un État souverain, bien évidemment. Nous sommes l'Union européenne, qui est une entité juridique un peu particulière, mais qui, comme je le disais tout à l'heure, par exemple, ne peut pas remplir un travail consulaire à la place d'un État membre. Et donc, quand un État membre quitte un pays, il faut qu'il confie à un autre État membre un certain nombre de ses intérêts que seul un État membre souverain et indépendant peut assurer et exercer, ce qui n'est pas encore le cas de l'Union européenne pour le moment. Vous m'interrogiez enfin sur, oui, est-ce que nous avons une action planifiée en ce domaine? Je dirais que nous avons un objectif et que nous essayons d'avancer, mais que nous avançons précisément en étroite concertation avec les États membres et un peu à leur demande. Il ne s'agit pas pour nous de nous imposer et d'essayer d'accélérer les choses et de bouleverser le paysage diplomatique. Il s'agit plutôt d'avancer progressivement en plein accord avec les États membres à mesure qu'ils nous demandent éventuellement de faire un travail qu'ils ne peuvent plus ou ne veulent plus faire.
Eu tenho ainda duas inscrições e pedia, penso que é preferível, dado que temos de terminar por volta das 10 horas, uma vez que há um debate com o Sr. Ministro, que a resposta fosse agora conjunta. Sr. Deputado António Rodrigues, da Comissão de Assuntos Europeus.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário-Geral, é um prazer e uma honra tê-lo aqui connosco. Infelizmente, com tão pouco tempo, porque com certeza as matérias que temos a tratar dariam para estarmos aqui a manhã inteira. E precisamente por isso vou-lhe colocar uma questão simples, porque que me mantém preocupado relativamente a estas matérias, que diz respeito principalmente ao futuro deste tipo de serviços, ou seja, da eventual confusão no futuro dos serviços de ação externa com os atos de diplomacia tradicional dos Estados-membros da União. E ao mesmo tempo que pode haver confusão por sobreposição relativamente aos exercícios destas funções em termos comunitários e em termos nacionais, se de alguma forma a eventual e progressiva substituição de diplomacias nacionais por atos comunitários podem não vir prejudicar as ações e os esforços desses mesmos Estados que hoje em dia utilizam os mecanismos tradicionais da diplomacia para, por exemplo, aquilo que é quase uma moda, mas é efetivamente uma prática comum, atos de diplomacia económica, ou seja, forma de promover a imagem de Estados junto de Estados fora do quadro da União. Esta preocupação conjuga-se ainda com uma outra, que é como é que vê os serviços de ação externa que funcionam para fora da União com os serviços tradicionais de diplomacia dos Estados-membros dentro do próprio espaço da União. E, portanto, havendo aqui de alguma forma, preocupações comuns de cada um destes serviços, se não corremos o risco, muitas vezes, de cruzarmos e chocarmos relativamente àquilo que são as nossas ações que queríamos que fossem conjuntas e efetivas.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por dizer que aquilo que foi que o Sr. Secretário-Geral referiu sobre a complementaridade, a cooperação e o equilíbrio que está a consolidar-se, eu julgo que isso é importante para um bom funcionamento, quer da ação externa da União Europeia, quer individualmente para os Estados-membros, que haja esse entendimento e não haja favorecimentos ou desvio da informação que é recolhida no terreno a favor de uns e em detrimento de outros. Mas aquilo que eu gostava de entender e pedi ao Sr. Secretário-Geral se me podia ajudar nisto, era quais são os limites em termos de ação diplomática do Serviço de Ação Externa. Quais são os limites? Eu dou um exemplo com Cuba. A situação de Cuba parece-me um bocado estranha, esquisita, um pouco até esquizofrénica, porque existe uma relação com Cuba de embargo da União Europeia relativamente a Cuba, e, no entanto, todos os Estados-membros têm algum tipo de relacionamento de cooperação em termos económicos, em termos institucionais, em termos políticos. Pedia-lhe a sua leitura sobre esta situação da relação entre a União Europeia e Cuba e os Estados-membros e de que forma é que poderá evoluir, sobretudo tendo em conta que Cuba tem dado até sinais de abertura relativamente àquilo que têm sido as pretensões da União Europeia, considerado de uma maneira geral. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário-Geral.
Merci, Monsieur le Président. Les deux questions qui m'ont été posées, en fait, sont assez complémentaires. Sur le problème, est-ce qu'il peut y avoir une confusion des fonctions? Je ne crois pas. D'abord, pour une raison vraiment fondamentale et qu'il faut bien comprendre, c'est que le service d'action extérieure ne peut rien faire s'il n'a pas l'accord des États membres. Et si les États membres nous disent non, nous ne voulons pas que vous fassiez telle ou telle chose, Nous ne le ferons pas. Ce qu'ils attendent de nous, c'est qu'on leur fasse des propositions, qu'on essaye d'avoir une vision parfois un peu stratégique, d'essayer de définir un chemin dans nos relations avec tel ou tel pays, avec telle ou telle région. Et ça, nous le faisons, nous le préparons, et puis nous le présentons aux États. Ils nous disent oui ou non, on est d'accord pour avancer. Et on voit très bien la répartition des rôles. Vous posiez la question de la promotion des intérêts d'un État membre. Les intérêts propres à chacun des États membres, c'est seuls les États membres qui peuvent le faire. Pour promouvoir les intérêts d'une entreprise, d'un pays européen, c'est ce pays européen qui seul peut le faire. En revanche, ce que peut faire le service d'action extérieure, c'est lorsqu'il y a un sujet qui concerne tous les États membres, et ceux-ci pensent qu'il vaut mieux que ce soit l'Union européenne en tant que telle qui défende cet intérêt au nom de tous, parce qu'on a une dimension et une taille qui nous rend plus crédibles vis-à-vis de la Chine ou des États-Unis. Pensez par exemple actuellement à la question d'ailleurs très controversée de la pollution des avions. On peut être pour, on peut être contre, mais il est certain que dès lors que les États membres ont pris cette position, il vaut mieux que ce soit l'Union européenne qui le défende. On a très bien vu sur un autre dossier qui était celui par exemple d'Airbus depuis 15 ou 20 ans que les pays membres qui assurent la construction de l'avion Airbus trouvaient un intérêt à demander à l'Union de travailler et de parler en leur nom à tous. Mais encore une fois, on ne le fait que parce que les États membres nous l'ont demandé, on ne prendrait pas l'initiative par nous-mêmes. Et c'est un peu la même chose pour répondre à votre question sur la complémentarité et sur Cuba. L'exemple de Cuba est en effet excellent. Sur Cuba, il y a une position commune qui a été adoptée par les États membres. Et déjà depuis maintenant quelques années, on voit bien que cette position commune a du mal à tenir parce qu'un certain nombre d'États membres trouvent que c'est trop restrictif, que les événements ont évolué à Cuba et qu'on devrait essayer de faire autre chose. Ce que nous avons alors, nous, au niveau de l'Union européenne, à Bruxelles, proposé, c'est, on a dit aux États membres, est-ce que vous voudriez qu'on réfléchisse à définir une nouvelle position, non pas position commune, celle-ci resterait, mais éventuellement qu'on réfléchisse à définir le cadre d'un nouveau traité de partenariat avec Cuba. Et les États membres nous ont dit oui, commencez à réfléchir à ça, et puis on verra si on est d'accord. Et la vérité, c'est qu'à l'heure actuelle, on n'est pas d'accord. Les États membres ne sont pas d'accord entre eux. Et donc, on est dans une situation où, en effet, individuellement et bilatéralement, un certain nombre d'États membres ont développé leur relation avec Cuba. D'autres refusent de le faire. Et l'Union européenne, en tant que telle, est pour le moment plutôt muette et parce qu'elle n'a pas l'accord des 27 États membres pour faire quelque chose. Peut-être que d'ici la fin de l'année, on y arrivera, on garde le contact, on travaille avec les uns et les autres. Mais comme je le disais tout à l'heure, vous voyez bien que si les 27 États membres ne sont pas d'accord, le service d'action extérieure, la haute représentante, ne peuvent pas prendre d'initiative tout seul. On peut recevoir le ministre des Affaires étrangères de Cuba s'il passe à Bruxelles, mais on ne pourra pas lui dire grand-chose, sinon l'écouter. Rappeler ce qui est notre position commune, c'est-à-dire la nécessité que les droits de l'homme à Cuba s'améliorent, que les prisonniers politiques soient libérés. Nous avons des contacts avec l'Église catholique à Cuba, avec l'archevêque de la Havane. Nous voyons tout le monde, nous écoutons tout le monde, mais nous ne prenons pas d'initiative tant que les États membres ne se seront pas mis d'accord pour qu'on le fasse.
Sr. Secretário-Geral, queria agradecer-lhe esta hora de debate. Penso que foi útil para ambas as comissões. Portugal acompanha de perto a implementação do Serviço Europeu de Ação Externa. Tem defendido alguns princípios, como o recrutamento baseado no equilíbrio geográfico, a presença de nacionais de todos os Estados-membros, a garantia também de que as competências da Comissão, no que diz respeito à dimensão externa das políticas internas, seja preservada, a criação de laços reforçados e de articulação, coordenação com os serviços diplomáticos nacionais, em particular também com entre as delegações da União e as embaixadas bilaterais e missões multilaterais. Penso que para nós, e penso poder falar também em nome da Comissão de Negócios Estrangeiros, dizendo que foi útil esta presença, e queria, enfim, também pôr-me ao dispor para a continuação desta colaboração. Nós estamos um pouco pressionados pelo tempo, uma vez que agora às 10 temos um debate com o Sr. Primeiro-Ministro, pelo que temos de encerrar aqui os nossos trabalhos. Muito obrigado.
Merci beaucoup. Et je voulais juste vous dire, Monsieur le Président, que bien sûr, nous aussi, nous sommes à votre disposition quand vous le souhaitez, soit pour revenir à Lisbonne, c'est toujours un plaisir de revenir à Lisbonne, soit si vous passez à Bruxelles, bien sûr, je suis à votre disposition. Et merci de m'avoir fait ce très grand honneur de venir vous voir. Merci beaucoup. Mmh.